Alors que j'attendais mon coca, j'ai repensé à Sadie me disant « Nous laissons une piste d'un kilomètre de large ». C'était vrai. Mais peut-être que maintenant, ça pourrait me servir. Pourvu qu'un certain dépanneur d'une certaine station Esso de Fort Worth ait fait ce que le mot glissé sous l'essuie-glace de la Chevrolet lui demandait. Fritz a allumé une cigarette et poussa le paquet vers moi. J'ai secoué la tête et il l'a ramené à lui. « Racontez-nous comment vous l'avez connu, » dit-il. J'ai raconté que j'avais rencontré Lee dans Mercedes Street et que nous avions lié connaissance. J'avais écouté ses élucubrations sur les maux de l'Amérique fasciste et impérialiste et sur le merveilleux État socialiste qui verrait le jour à Cuba. Cuba était l'idéal, qu'il disait. D'indignes bureaucrates avaient fait main basse sur la Russie, ce qui l'avait poussé à la quitter. Mais à Cuba, il y avait Tonton Fidèle. Lee n'avait pas été jusqu'à dire que Tonton Fidèle marchait sur l'eau, mais c'était tout comme. Je pensais qu'il était timbré, mais j'aimais bien sa petite famille. Cette partie-là était vraie. J'aimais bien sa petite famille et je le croyais vraiment timbré. Mais qu'est-ce qui a poussé un professeur de métier comme vous à s'installer dans les quartiers les moins reluisants de Fort Worth ? A voulu savoir Fritz. Je voulais écrire un roman. Je me suis rendu compte que c'était impossible tout en enseignant. Mercedes Street était peut-être un trou, mais c'était un trou pas cher. Je prévoyais que l'écriture du livre me prendrait au moins un an, donc je devais faire durer mes économies. Quand le quartier me déprimait, je me racontais que je vivais dans une sous-pente de la rive gauche. Fritz, vos économies comprennent-elles l'argent gagné chez les bookies ? Moi, là, j'invoque le 5e amendement. Wilfried a carrément ri. Hostie. Alors, comme ça, vous avez rencontré Oswald et vous vous êtes lié d'amitié avec lui. Une amitié relative. On ne devient pas copain comme cochon avec des cinglés. Du moins, pas moi. Poursuivez. Lee et sa famille avaient déménagé, moi j'étais resté. Puis un jour, sans que je m'y attende, il m'avait appelé pour me dire que Marina et lui vivaient à Ellsworth Street à Dallas. D'après lui, c'était un meilleur quartier que Mercedes. Les loyers étaient bon marché et les logements libres nombreux. J'ai raconté à Fritz et Hostie que j'étais fatigué de Mercedes Street à ce moment-là. Alors j'avais fait un saut à Dallas, déjeuné avec Lee au comptoir de chez Woolworth et fait un tour dans le quartier. J'avais loué l'appartement du rez-de-chaussée du 214 West Neely Street. Et quand l'appartement du dessus s'était libéré, j'avais averti Lee. Juste retour d'ascenseur, en quelque sorte. J'ai dit, sa femme n'aimait pas leur appartement d'Ellsworth. L'immeuble de West Neely était juste au coin de la rue et il était vraiment plus agréable. Alors ils ont emménagé. Je ne savais pas s'ils vérifieraient cette histoire dans les détails, si ma chronologie des faits tiendrait, ni ce que Marina pourrait leur raconter. Mais tout ça m'indifférait. J'avais juste besoin de gagner du temps. Même une histoire qui n'était qu'à moitié plausible pouvait m'en procurer. D'autant que l'agent Hostie avait de bonnes raisons de me prendre avec des gants. Si je racontais ce que je savais de ses rapports avec Oswald, il risquait de passer le reste de sa carrière à se geler le cul à Fargo. Puis, il s'est passé quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. En avril, c'était. Juste à Pâques. J'étais assis à la table de la cuisine, je travaillais à mon livre, quand une batte de voiture, une Cadillac, je crois, est arrivée avec deux personnes à bord. Un homme et une femme, bien sapés. Ils apportaient un jouet en peluche à Junie. C'est... Fritz, nous savons qui est June Oswald. Ils ont monté l'escalier, et j'ai entendu le type, il avait une sorte d'accent allemand et une voix de stentor. Je l'ai entendu dire « Lee ! Comment t'as fait pour le louper ?» Hostie se pencha en avant, les yeux aussi écarquillés que son visage bouffi le lui permettait. « Quoi ? Vous m'avez bien entendu. Alors, j'ai vérifié dans le journal. Et devinez quoi ? Quelqu'un avait tiré sur un général à la retraite 4 ou 5 jours avant. Un extrémiste de droite renommé. Exactement le genre de bonhomme que détestait Lee. Et vous avez fait quoi ? Rien. Je savais qu'il avait un revolver, il me l'avait montré un jour. Mais le journal disait qu'on avait tiré sur Walker à coups de fusil. Et puis, mon attention était accaparée par mon amie à ce moment-là. Vous m'avez demandé pourquoi elle avait un couteau dans son sac. La réponse est simple. Elle avait peur. Elle avait été agressée, elle aussi. Oh, pas par Mr. Roth, mais par son ex-mari. Il l'avait affreusement défigurée. Nous avons vu sa cicatrice, a dit Hosty. Et nous sommes désolés pour votre perte, Amberson. Je vous remercie. T'as pas l'air assez désolé, j'ai pensé. Le couteau qu'elle transportait était celui que son ex-mari, il s'appelait John Clayton, avait retourné contre elle. Elle l'emportait partout. Je me suis rappelé d'elle me disant « Au cas où ». Je me suis rappelé d'elle me disant « Si ça, c'était pas un cas d'au cas où ». J'ai pris mon visage dans mes mains pendant une minute. Ils ont attendu. Puis je les ai laissés retomber sur mes genoux et j'ai repris, d'une voix atone à la Joe Friday. Les faits, mesdames. Rien que les faits. J'ai gardé mon appartement de West Neely, mais j'ai passé la majeure partie de l'été à Jody, à m'occuper de Sadie. J'avais quasiment renoncé à l'idée du livre. Je pensais postuler à nouveau au lycée de Denholm. Et c'est là que je suis tombé sur Akiva Roth et ses sbires, et que j'ai atterri à l'hôpital à mon tour. À ma sortie, j'ai intégré un centre de rééducation, Eden Fellows. « Je connais », a dit Fritz. « Un genre de lieu de vie assisté. » « Oui. » Et Sadie était mon assistante en chef. Je me suis occupé d'elle après son agression par son mari, et elle s'est occupée de moi après mon agression par Roth et compagnie. Les choses se passent comme ça. Elles répondent à... je ne sais pas... une sorte d'harmonie. « Les choses arrivent pour une raison », a déclaré solennellement Hosty. Et l'espace d'une seconde, j'ai eu envie de me jeter par-dessus la table pour casser sa grosse trogne rouge. Pas parce qu'il avait tort. À mon humble avis, les choses arrivent effectivement pour des raisons. Mais les aime-t-on pour autant, ces raisons ? Rarement. Vers la fin octobre, le docteur Perry m'a donné le feu vert pour conduire sur de courtes distances. C'était un mensonge complet, mais il n'irait pas vérifier ça tout de suite auprès de Perry. Et s'il m'investissait du rôle d'authentique héros américain, il n'irait pas le vérifier du tout. J'ai roulé jusqu'à Dallas ce mardi-là, pour revoir l'immeuble de West Neely. Une sorte d'impulsion. Je voulais voir si ça ferait remonter des souvenirs. J'étais effectivement allé à West Neely, mais pour récupérer mon revolver sous les marches du porche. Après, j'ai décidé d'aller déjeuner chez Woolworth, comme au bon vieux temps. Et sur qui je tombe ? Le brave Lee, en train de se taper un pain de seigle au thon. Je m'assois et je lui demande si ça roule. Et c'est là qu'il me raconte que le FBI les harcèle, lui et sa femme. Il me dit comme ça... « Je vais apprendre à ces salauds à pas fricoter avec moi, George. Si tu regardes la télé vendredi après-midi, tu pourrais bien assister à quelque chose. »« Ah la vache !» a fait Fritz. « Et vous avez tout de suite rapproché ça de la venue du président ?»« Pas tout de suite. J'ai jamais suivi les faits et gestes de Kennedy de très près, je suis républicain. » Deux mensonges pour le prix d'un. Et puis... Lee a embrayé sur son sujet préféré. Hosty. Cuba. Exact. Cuba et Viva Fidel. Il m'a même pas demandé pourquoi je boitais. Il était totalement absorbé par lui-même, vous voyez ? Mais bon, ça, c'était Lee tout craché. Je lui ai payé un pudding à la crème. Ils ont fondé du tonnerre chez Woolworth, et pour à peine un quart de dollar. Et je lui ai demandé où il travaillait. Il m'a dit le TSBD dans Elm Street, avec un grand sourire, comme si décharger des camions et trimballer des cartons était le truc le plus bad du monde. J'avais écouté son baratin d'une oreille distraite, puis je m'en étais allé parce que ma jambe me faisait mal et que le mal de tête me reprenait. J'étais rentré à Eden Fellows et j'avais fait une sieste. Mais à mon réveil, l'allemand et son « Comment t'as fait pour le louper ?» m'étaient revenus à l'esprit. J'avais allumé le poste et il parlait juste de la visite du président. C'était là, j'ai dit à Fritz et Hosty, que j'avais commencé à m'inquiéter. J'avais écumé la pile de journaux dans le salon, retrouvé l'itinéraire du cortège et vu qu'il passait juste devant le TSBD. J'ai gambergé là-dessus toute la journée du mercredi. Ils étaient penchés en avant maintenant, suspendus à mes lèvres. Hosty prenait des notes sans regarder son calepin. Je me demandais s'il pourrait seulement se relire plus tard. Je me disais en moi-même, peut-être qu'il en a vraiment l'intention. Et puis je me disais, mais non, Lee a que le chapeau et zéro troupeau. Je savais pas sur quel pied danser. Hier matin, j'ai téléphoné à Sadie pour lui raconter toute l'histoire et lui demander ce qu'elle en pensait. Elle a appelé Deke Simmons, celui que j'ai appelé son père de substitution, puis m'a rappelé. Elle m'a dit que je devais avertir la police. Fritz m'a dit « Je ne veux pas ajouter à votre peine, fils, mais si vous aviez fait ça, votre jeune ami serait toujours en vie. Attendez une minute. Vous n'avez pas entendu toute l'histoire. » Moi non plus, évidemment. J'en fabriquais de larges pans tout en la racontant. Je lui ai dit « Pas les flics. Parce que si Lee était innocent, il verrait vraiment rouge. Comprenez-moi, ce gars-là ne tenait que par un fil. » Mercedes Street était peut-être un trou, et West Neely ne valait pas beaucoup mieux. Mais pour moi, ce n'était pas grave. Je suis célibataire et j'ai de quoi m'occuper avec mon livre. Et j'ai un peu d'argent à la banque. Lee, quant à lui, il avait une femme splendide et deux petites filles, dont la deuxième venait juste de naître. Et il avait le plus grand mal à garder un toit au-dessus de leur tête. C'était pas un mauvais bougre. En disant ça, j'ai eu envie de toucher mon nez pour voir s'il s'allongeait. Mais c'était un raté de première classe. Avec ses idées folles, il avait du mal à garder un emploi. Il m'a dit que quand il en avait un, le FBI s'en mêlait et lui foutait tout en l'air. Il m'a dit que c'est ce qui s'était passé avec son boulot de reprographe. « C'est des conneries », a dit Hosty. « Ce mec foutait sur le dos des autres les problèmes qu'il se créait lui-même. » Nous sommes d'accord sur certains points, cependant, Amberson. C'était un raté de première classe et je plaignais sa femme et ses gosses. Je les plaignais vraiment. Ah oui? C'est gentil à vous. Ah, en tout cas, il avait un emploi et je voulais pas qu'il le perde à cause de moi si c'était que de l'esbrouf, sa spécialité. J'ai expliqué à Sadie que j'allais aller au TSBD demain. Enfin, aujourd'hui, maintenant, juste pour vérifier où il en était. Elle m'a dit qu'elle voulait m'accompagner. Je lui dis non, que si Lee avait vraiment perdu la boussole et qu'il était décidé à commettre une folie, elle risquait de se mettre en danger. « Est-ce qu'il vous a paru déséquilibré quand vous avez déjeuné avec lui ?» m'a demandé Fritz. « Non. Plutôt plein de sang-froid. Mais il a toujours été comme ça. » Je me suis penché vers Fritz. « Maintenant, je veux que vous m'écoutiez très attentivement, inspecteur. Je savais qu'elle était décidée à m'accompagner. Peu importe ce que je lui disais. Je l'entendais à sa voix. Alors je me suis tiré. J'ai fait ça pour la protéger. Au cas où. Si ça, c'était pas un cas d'au cas où, a chuchoté la Sadie qui vivait dans ma tête. Elle y vivrait jusqu'au jour où je la reverrai en chair et en os. Je me l'étais juré. Quoi qu'il arrive. Je pensais passer la nuit dans un hôtel, mais les hôtels étaient complets. Puis j'ai pensé à Mercedes Street. J'avais rendu la clé du 2706 où j'avais habité, mais j'avais toujours la clé du 2703 où habitait Lee. Il me l'avait donnée pour que je puisse arroser ses plantes. Hosty. Il avait des plantes ? Mon attention était rivée sur Wilfred. Sadie s'est alarmée en me découvrant envolée d'Eden Fellows. Deke aussi. Alors il a appelé la police. Oh, pas juste une fois, plusieurs. Chaque fois, le flic de service lui a dit d'arrêter ses conneries et lui a raccroché au nez. Je ne sais pas si quelqu'un a pris la peine d'archiver ses appels, mais Deke vous le confirmera. Et il n'a aucune raison de mentir. Maintenant, c'était au tour de Fritz de piquer un phare. « Si vous saviez combien de menaces de mort nous avons reçues, je n'en doute pas. Et avec un effectif tellement réduit. Seulement, ne me dites pas que si nous avions appelé la police, Sadie serait encore en vie. Ne me dites pas ça, d'accord ?» Il n'a rien dit. Comment a-t-elle fait pour vous trouver ? A voulu savoir Hostie. Là-dessus, je n'avais aucune raison de mentir et je ne l'ai pas fait. Ensuite, bien sûr, il me questionnerait sur le trajet de Mercedes Street à Fort Worth, jusqu'au TSBD, à Dallas. C'était la partie de mon histoire la plus chargée de périls. Je ne me faisais pas de soucis pour Studebaker Cowboy. Sadie lui avait donné un coup de couteau, mais seulement quand il avait cherché à lui voler son sac. Sa caisse était au bout du rouleau, de toute façon, et j'avais dans l'idée que le cow-boy se déplacerait même pas pour la déclarer volée. Bien sûr, nous en avions volé une deuxième, mais étant donné l'urgence de notre mission, les flics s'abstiendraient sûrement d'engager des poursuites pour si peu. La presse les crucifierait s'ils s'y risquaient. Ce qui m'inquiétait, c'était la Chevrolet rouge à l'arrière dessinée comme des sourcils de femme. Un coffre contenant deux valises, ça pouvait s'expliquer. Nous avions déjà passé d'autres week-ends cochons au bungalow Candlewood. Mais si leurs yeux venaient à tomber sur les notes de Hal Templeton, je ne voulais même pas y penser. Un coup bref, de pure forme, retentit à la porte de la salle d'interrogatoire. L'un des policiers qui m'avait amené au commissariat passa la tête dans l'embrasure. Au volant de la voiture, alors que lui et son copain inventoriaient mes biens personnels, il m'avait paru austère, dangereux, le flic en bleu tout droit sorti d'un film noir. Là, un peu hésitant, les yeux exorbités par l'excitation, j'ai vu qu'il n'avait pas plus de 23 ans et que son acné juvénile lui donnait encore des boutons. Derrière lui, j'apercevais une foultitude de gens, certains en uniforme, d'autres pas, tous le cou tendu pour me viser dans leur périscope. Fritz et Hostie se sont tournés impatiemment vers l'intrus. « Messieurs, désolé de vous interrompre, mais il y a un appel téléphonique pour Mr. Amberson. » Un flot de rouge est remonté au bajou d'Hostie. « Fils, on est en plein interrogatoire ici. Je me fous que ça soit le président des États-Unis qui appelle. » Le flic a avalé sa salive. Sa pomme d'Adam est montée et redescendue comme un singe autour d'un bâton. « Messieurs, c'est le président des États-Unis. » Il s'en foutait pas tant que ça, finalement.